Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique et nous parlons ce soir de la reconnaissance faciale et de ses usages en matière de sécurité, pour le meilleur et pour le pire. Et nous sommes pour en débattre avec Amel Guiton de Libération. Bonsoir Amel.
Bonsoir.
Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ong. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors les dispositifs de reconnaissance faciale vous paraissent, c'est pas la peine de casser le micro puisque vous y êtes tout de suite, les dispositifs de reconnaissance faciale vous paraissent peut-être de l'ordre de l'avenir un peu lointain et pourtant cette semaine c'est la région PACA et la ville de Nice qui ont fait l'actualité sur ce sujet, Amel Guiton.
Oui, donc en fait, c'était une initiative, un test hein, qui a été mis en place par la ville de Nice
et Christian Estrosi, pendant le
carnaval. L'idée, c'était l'expérimentation d'un dispositif de reconnaissance faciale dans une partie de l'enceinte du carnaval. Alors, si j'ai bien compris, il s'agissait en fait d'équiper un corridor d'accès et de tester divers scénarios, l'enfant perdu dans la foule, la personne âgée en situation de vulnérabilité, la personne suspecte, hein, bien évidemment, puisqu'on sent qu'il y a quand même assez clairement en toile de fond. Le tout, en fait, sur la base du consentement des participants. Alors après, j'ai cru comprendre, en fait, en lisant les papiers, que les personnes pas volontaires avaient eu le visage flouté et n'étaient pas reconnaissables sur les images. Donc apparemment, c'est comme ça qu'ils ont géré le truc. Mais en tout cas, c'était présenté comme un test sur la base du volontariat et c'était effectivement une première en France, hein, me semble-t-il, sachant que là où on voit que effectivement l'idée n'est pas d'en rester là, c'est que Christian Estrosi, donc le maire de Nice, a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait déposer une proposition de loi à assez brève échéance sur le sujet. Donc là, on voit qu'on commence quand même à rentrer dans le dur et dans le déployer là en France aussi, quoi.
Avec l'objectif de renforcer la sécurité, dit-il, Eliott Lepers.
Oui, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'effectivement, M. Estrosi a annoncé que la CNIL avait donné l'autorisation à cette expérimentation, alors que c'est pas vrai, la CNIL a démenti. La loi a un peu changé avec le RGPD depuis le 25 mai 2018.
Que dit la loi, justement ?
La loi, maintenant, elle demande une autorisation explicite pour procéder à la reconnaissance faciale à partir de visage. Donc, il n'y a plus besoin d'autorisation de la CNIL, en revanche, il y a besoin de l'autorisation des utilisateurs.
Et donc, c'est plus difficile, finalement, à obtenir s'ils sont nombreux.
C'est l'enjeu, c'est qu'effectivement, si on veut massifier ce système de surveillance à l'échelle nationale, eh bien, ce n'est pas envisageable d'obtenir un consentement éclairé, explicite de toutes les personnes qui vont être filmées. Donc là, effectivement, à Nice, les personnes qui sont filmées et qui ne sont pas consentantes, elles sont floutées et les autres ont donné leurs photos pour pouvoir être reconnues par le système.
Oui, puis ce qui est assez frappant, c'est moi je n'ai pas souvenir, pourtant je suis la CNIL sur Twitter depuis longtemps, je n'ai pas souvenir d'un fil comme ça de déclaration qui viennent démentir de manière très offensive les propos d'un élu. Donc ça donne quand même un peu l'impression qu'ils étaient assez énervés de l'affaire. Ils ont rappelé...
En même temps, il s'agit d'une expérimentation. Ouais. Les données collectées étaient censées être supprimées au bout de 24 heures après l'expérimentation.
Oui, mais là où ils sont manifestement pas très contents, c'est qu'ils ont en fait été avertis de la mise en place de ce test, de ce dispositif au 1er février, c'est-à-dire en fait, en gros...
Quelques jours avant.
18 jours avant. Ils ont souligné que l'urgence dans laquelle ils avaient été sollicités n'était pas forcément le meilleur cadre pour pouvoir réfléchir aux impacts de ce type de choses. Et effectivement, ce qu'ils rappellent et ce qui est très important, c'est que si ça devait être déployé à une échelle plus large... ça ne serait pas régulé par le fameux règlement européen sur la protection des données, mais ça relèverait d'une directive européenne police-justice qui d'ailleurs a été adoptée au même moment, mais qui est un cadre légal différent, et que en l'état, il n'y a pas de cadre légal pour
donc
ce type de dispositif.
Par une loi.
Il faudrait passer.
Et c'est ce que réclame justement Christian Estrosi.
C'est évidemment ce que réclame Christian Estrosi, ouais.
Eliott Lepers.
Mais c'est par ailleurs une demande de la CNIL, effectivement, qu'il y ait une révision, notamment du code de la sécurité intérieure, parce que aujourd'hui, la CNIL estime que notre droit est très en retard sur ces questions-là et qu'il y a énormément d'enjeux à aborder sur le plan légal.
Alors, une des applications particulières qui fait débat également de cette reconnaissance faciale, c'est elle pourrait servir comme dispositif dans les établissements scolaires. Amel Guiton.
Bah oui, alors là, on a le cas hein, de ces deux lycées. un à Nice et un à Marseille.
Encore à Nice. Bah, là, oui, c'est voilà. Entreprise Cisco, notamment, d'ailleurs.
Et donc, c'est une expérimentation, hein, de nouveau, qui a été annoncée, je crois, en décembre 2018, donc pour être mise en place en janvier. Donc, un lycée de Nice, un lycée de Marseille, une technologie, effectivement, d'une entreprise américaine qui est donc Cisco.
D'ailleurs, alors, le logiciel s'appelle à Nice, je vous le donne en mille, Better Tomorrow. Sera mieux demain. Développé par l'entreprise israélienne AnyVision. Ouais.
C'est présenté, là encore, comme un moyen de, finalement, décharger les surveillants du contrôle d'accès. De toute façon, on sent bien que dans toutes ces histoires de dispositifs sécuritaires...
On se cache derrière la sécurité pour d'autres raisons.
Et de Safe City, il y a toujours l'idée qu'on va résoudre,
tous les problèmes
entre guillemets, par la technologie, des problèmes qui peuvent aussi être des problèmes de moyens. Enfin, dans le cas de ce qu'on appelle les logiciels de prédiction policière, même s'il faut mettre beaucoup de guillemets, tels qu'ils se sont développés aux États-Unis, c'était un peu ça l'idée, hein, c'était un peu de gérer, entre guillemets, la pénurie. Et donc, là encore, c'est basé sur le consentement des lycéens, avec en réalité deux manières d'accéder à l'établissement. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui sont consentants et qui vont donc être soumis au dispositif de reconnaissance faciale, et puis les autres lycéens qui ne veulent pas participer et qui, eux...
vont faire la queue, devoir montrer leur carte, etc.
Voilà.
Mais est-ce que pour se faire l'avocat du diable, je ne sais pas si c'est le diable d'ailleurs, mais est-ce que pour ne pas avoir d'intrus dans un lycée, pour faciliter les déplacements et fluidifier, je cite les défenseurs de ces technologies, fluidifier les entrées et sorties au moment des heures de pointe, est-ce que ce n'est pas une solution, Hugues de Perse ?
C'est là que oui, il y a un choix politique, effectivement, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir une société où on peut échapper à un système de surveillance de masse. Et M. Estrosi a choisi très clairement, c'est le chantre de la surveillance depuis le début. Il a construit Nice comme étant la ville la plus dense en termes de caméras de vidéoprotection, comme on dirait là-bas. On se souvient l'an dernier, il avait annoncé un système où il y avait une application qui venait aussi d'Israël, d'une boîte qui s'appelle Eagle Surveillance, je crois, et qui permettait justement à n'importe qui de diffuser des images dont il était témoin pour rejoindre les flux de surveillance. Et M. Estrosi, qui dirige qui est rapporteur, effectivement, du projet au niveau de la région, qui a permis de mettre en place l'expérimentation dans les lycées. Donc il est complètement jugé parti sur ce sujet. Il y a un entêtement. Il dit lui-même il faut utiliser n'importe quelle innovation si ça nous permet d'augmenter la sécurité. Quoi. C'est là qu'il y a un sujet effectivement philosophique. La technologie, aujourd'hui, elle doit nous garantir des libertés.
Zoé Spez.
Il y a un sujet évidemment politique, philosophique, il y a un sujet de sécurité. Si on vole les données comme c'est arrivé en Chine d'ailleurs, il y a une grosse question, mais vous en parlez tout à l'heure. Ce que disait Sébastien Dupont, que je recevais il y a exactement 4 minutes, qui nous a quittés, et qui est donc RSSI, responsable des systèmes d'information et de sécurité, lui dit on n'est même pas sûr que ça fonctionne. Concrètement, c'est une technologie qui n'est pas du tout au point. Et on a derrière quand même des industriels israéliens et américains qui poussent énormément. On est d'abord et avant tout pour le moment sur une question économique. C'est-à-dire des entreprises qui vendent un produit dont on n'est même pas sûr, il a un potentiel très dangereux, qui fonctionnera vraiment.
Amal Guito.
Alors, israéliens et américains, effectivement, mais pas seulement. Donc oui, il y avait l'histoire de l'application, c'était reporté, hein, l'application israélienne donc, que la ville de Nice avait voulu déployer et que la CNIL avait refusé. Il y a aussi des Français, enfin, on a le cas de Thales, par exemple, qui en gros est le partenaire de la ville de Mexico pour un projet qui s'appelle Ciudad Segura, donc ville sûre. Hein. On est en plein dans la Safe
City. Avec l'accent espagnol.
On a ENG INEO qui mène aussi ce type de projet avec un certain nombre de villes. Donc il y a effectivement une problématique économique. Et puis alors quand même, faudrait sans doute rappeler, moi j'ai retrouvé un article, enfin plusieurs articles d'ailleurs, qui faisaient le bilan d'une expérimentation de vidéosurveillance intelligente, entre guillemets, qui avait été menée à Londres en août 2017, au moment du carnaval de Notting Hill. Et il y avait eu, quelques mois plus tard, je crois novembre ou décembre, plusieurs articles qui étaient partis au départ d'un reportage d'une chaîne de télé britannique qui expliquait qu'en fait le bilan était assez calamiteux puisqu'il y avait eu quand même 35 personnes qui avaient été reconnues à tort et une personne arrêtée alors qui entre guillemets n'avait pas été reconnue à tort, c'est-à-dire qu'elle faisait partie d'un fichier de personnes suspectées mais la base de données était trop vieille, or depuis elle avait été en gros lavée de tout soupçon. Donc là on voit qu'on est en plein dans ce que les scientifiques appellent les faux positifs. Donc en plus il y a cet aspect là d'une technologie qui est quand même très très loin d'être sûre à 100%.
Hugues de Perse.
Et on a aussi appris fin janvier que à San Francisco, qui est la ville où on pourrait imaginer qu'il y aurait plus d'expérimentation sur ces sujets-là, eh bien il y a un projet de loi qui a été déposé au sein de la ville pour interdire complètement les expériences de surveillance, de reconnaissance faciale.
Il y a aussi des délibérations, quatre associations qui ont attaqué la délibération d'un conseil régional. Il y a aussi les employés d'Amazon qui ont aussi fait des réserves, émis des réserves, pardon.
Après, là où c'est un peu compliqué, c'est que le président de Microsoft, par exemple, Brad Smith, ces temps-ci, intervient beaucoup pour dire qu'il faudrait un cadre légal pour ces questions-là. Et là, on se pose effectivement toujours la question de qu'est-ce que ce cadre légal va permettre en réalité. Enfin, on voit que le débat, effectivement, est présent à peu près partout. En tout cas, dans les pays occidentaux, puisque en Chine, c'est
la question ne s'est pas posée.
Extrêmement développé.
Un mot sur la Chine, Amaël. Qu'est-ce qui s'y passe ? Là, on peut dire qu'on a un modèle qui est on voit d'être abouti.
Là, pour le coup, effectivement, alors en Chine, d'abord, il y a un écosystème économique avec un certain nombre d'acteurs qui sont très bons sur les technologies d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale. Et puis, on a effectivement le fait que ça ne provoque pas de réaction majeure dans la société civile.
Si vous traversez le...
Je relisais des papiers, effectivement, sur le fait qu'à Shanghai, quand on traverse au feu rouge, on va être entre guillemets flashé par la patrouille, et tant qu'on n'a pas payé l'amende, on va voir son visage affiché dans les arrêts de bus.
Même Orwell est dépassé.
Ça s'appelle le blame and shame.
Voilà, donc on est dans une société.
C'est plutôt le photo and shame,
très abouti. La reconnaissance faciale sert par exemple à contrôler les accès aux dortoirs de certaines universités en Chine, comme ça. Mais de nouveau, il y a pas besoin de surveillant humain.
Ou HLM, ouais. Également pour vérifier que l'appartement n'a pas été sous-loué à une personne qui n'est pas titulaire et qui n'est pas détentrice des droits.
Donc on est effectivement vraiment dans du contrôle social extrêmement abouti, mais sachant qu'il y a aussi toute l'histoire des systèmes de crédit social, etc. Enfin, tout ça se greffe. On est dans le contrôle social des populations.
En Espagne, la banque CaixaBank, si ça se prononce comme ça, très présente en Espagne, vient d'inaugurer 20 distributeurs de billets à reconnaissance faciale, laquelle permet d'éviter de taper son code bancaire dès lors que l'automate a identifié le client. On peut aussi parler tout simplement des smartphones qui ont de plus en plus souvent
ils donnent le personnel. Il y a un vrai enjeu sur la source des données, parce qu'on a besoin d'avoir énormément de données, de datasets, comme on dit, pour nourrir ces algorithmes et pour effectivement les entraîner à mieux reconnaître. Donc effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de téléphones sont équipés de ces fameux capteurs qui projettent des points sur notre visage et qui les transforment en algorithmes. Facebook fait ça depuis longtemps, identifie vos amis dans vos photos automatiquement avec de la reconnaissance faciale. Il y a une journaliste américaine, Kate O'Neill, qui a fait un peu de la spéculation en se basant sur le 10 Years Challenge, cet événement viral qui a eu lieu à la rentrée. C'était un hashtag qui a été utilisé des millions de fois pour poster une photo de soi il y a 10 ans, une photo de soi aujourd'hui. Elle s'est dit, et si jamais c'est une expérimentation pour avoir des données de gens très très constitués, très propres, à 10 ans d'écart, et donc pour pouvoir entraîner ces algorithmes. C'est vrai qu'on peut se poser cette question.
Il y a eu plusieurs chercheurs qui ont appelé à ne pas participer à ce 10 Years Challenge exactement pour ces raisons-là, c'est-à-dire avec non seulement la reconnaissance faciale et intégrant le vieillissement, notamment Sébastien Soriano qu'on a là-dessus.
Quels sont les risques de ces technologies ? On a déjà parlé de la récolte de données personnelles éventuellement illégales, ou en tout cas leur utilisation peut être problématique. Mais on pourrait aussi voir, par exemple, penser à des logiciels d'analyse qui seraient hackés et donc passés sous le contrôle de personnes malveillantes.
De toute façon, c'est la question de la vulnérabilité, elle se pose, la question de la vulnérabilité des systèmes, la question de la vulnérabilité des données. Moi, je me souviens qu'il y a, ça doit faire deux ans maintenant, il y avait eu ce débat en France sur le fameux fichier TES, c'est-à-dire le fichier des données biométriques des titulaires de passeports et de cartes d'identité. Un des aspects du débat, c'était l'idée de la constitution, en l'occurrence aux mains de l'État, mais de la constitution d'une gigantesque base de données biométriques, sachant que ce sont aussi des données qu'on ne peut pas changer. On peut pas changer son empreinte digitale, on ne peut pas changer son visage, enfin, en tout cas c'est quand même assez compliqué. Quand on se fait voler un mot de passe, d'une certaine manière, on peut en mettre un autre. Quand on se fait voler des données biométriques, là, d'une certaine manière, elles sont entre guillemets dans la nature, éventuellement utilisables de manière malveillante, et d'une certaine manière, on peut plus y faire grand chose, quoi. Donc, il y a aussi la question de la sensibilité même de ces données-là, qui dans la en gros, pour aller très vite, ne sont pas altérables a posteriori, quoi.
Et les fuites, elles sont quand même extrêmement fréquentes. On a la mémoire courte là-dessus, mais il faut se rendre compte que toutes les grandes entreprises de la tech ont été victimes de fuites de données massives.
Y compris des Yahoo, des Facebook, des Sony,
etc. Et donc, ça veut dire que aucune donnée n'est effectivement protégée. Et puis, il faut s'interroger sur le processus législatif autour de ces questions de surveillance. On se souvient qu'en 2016, quand la loi renseignement avait été votée et qu'on nous avait à ce moment-là vendu des simplifications dans les écoutes téléphoniques dans des cas d'enquête sur le terrorisme. Et bien aujourd'hui, ces modifications-là, elles sont utilisées contre des gilets jaunes pour organiser. Il y a 140 gilets jaunes qui sont sous écoute téléphonique à cause de cette loi, alors qu'ils ne rentrent pas dans les questions, dans les critères de terrorisme.
Alors pour terminer sur ces questions de reconnaissance faciale, là on est assez critique et on voit d'une certaine manière les limites de ces processus. En même temps, de tous côtés, le mouvement se fait, ça avance. Donc, quelles sont vos prédictions en termes de ce qui peut se passer dans quelques années, compte tenu qu'on est juste au départ et en même temps que de tous côtés, ces éléments-là entrent dans notre vie, presque, je dirais, en dépit des critiques très, très violentes que chaque dimanche, Amel Guitton et l'autre de Perse poussent dans ce studio.
Bah alors, moi, je suis
Vous n'arrêtez pas la vague.
Je suis jamais très à l'aise, effectivement, dans les prédictions, mais on voit de toute façon que ça se déploie, que ça se déploie dans plusieurs pays, que ça se déploie effectivement sur le fond de préoccupations sécuritaires qui continue à être là, hein. Et c'est toujours très difficile de défendre les libertés fondamentales face à cette pression-là, à toujours plus d'outils de détection, etc. Moi, j'avoue que je suis effectivement pas particulièrement optimiste. Y compris, ça vient pas que des États, ça vient pas que des villes. Je me souviens d'avoir eu des débats avec des gens il y a encore quelques années qui me disaient quand Google va faire ça, par exemple sur Google Images, ça va devenir très très compliqué.
Eh bien, on en reste là pour ce soir. Merci infiniment Amel Guitton de Libération et Lyol de Perse, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ong.